C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. C'est un passage de Hébreux chapitre 12, verset 28. Sommes-nous en train de rendre un culte ce matin à Dieu qui lui est agréable? Je crois que c'est bien qu'on se pose la question. Le faisons-nous avec piété et avec crainte, comme dit ce passage? J'aimerais que ce matin nous réfléchissions à deux choses. Quel est le contenu de notre culte? Et quelle est notre attitude ou notre pensée dans ce culte à Dieu? Je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout si on considère la suite de ce passage dans Hébreu, quand il dit « Car notre Dieu est un feu dévorant ». C'est une expression qui est citée de Deutéronome, et je pense que les destinataires de la lettre aux Hébreux connaissaient bien ce passage de Deutéronome. Il dit dans Deutéronome 4 « Prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous. » Car l'Éternel est un feu dévorant, un Dieu jaloux. C'est important de rendre à Dieu un culte qui est juste, avec un cœur qui est juste. Dieu nous aime beaucoup, mais il n'accepte pas que nous fassions n'importe quoi dans notre culte. Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et il demande que notre culte lui soit agréable. Les chrétiens au premier siècle étaient souvent ensemble. Ils étaient ensemble pour louer Dieu, pour s'encourager mutuellement, pour prier, pour le repas du Seigneur. Ils étaient ensemble lorsqu'ils avaient des persécutions, lorsqu'il y avait des questions à régler, de discipline interne. Ce qui était le plus important dans ces cultes, c'était d'abord une dimension horizontale, c'est-à-dire l'encouragement mutuel les uns des autres, et une dimension verticale, qui était la louange adressée à Dieu. Nous avons besoin du culte. Celui qui pense qu'il n'a pas besoin de se réunir avec ses frères et sœurs, c'est quelqu'un qui va tomber dans son propre piège. Hébreux 10, versets 24 à 25 dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter, je préfère le mot motiver, à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement. » Ou encourageons-nous mutuellement. Ceci n'exclut pas que nous puissions rendre un culte à Dieu personnellement, seul, individuellement. En Matthieu 6, verset 6, il dit « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. » Notre culte à Dieu se fait tous les jours, ce n'est pas seulement le dimanche matin. C'est tous les jours aussi que notre culte à Dieu doit lui être agréable. Vous pouvez vous souvenir de Daniel, qui priait tous les jours, ou Jésus, qui souvent s'est mis à l'écart, comme par exemple dans le jardin de Gethsemane, et qui a rendu un culte à Dieu. Pour ce qui est du culte chrétien, j'aimerais surtout vous parler ce matin du chant. Le chant nous permet d'exprimer nos sentiments les plus profonds. Le chant, on peut dire que c'est le langage de l'âme. C'est l'expression de notre cœur et de notre pensée. Jésus chanta des psaumes avec ses disciples après avoir institué le repas du Seigneur. Paul et Silas chantaient des louanges à Dieu lorsqu'ils étaient en prison. Le chant est approprié pour exprimer aussi bien des moments de tristesse, c'est par ça qu'on a par exemple les blues, des chants de tristesse, et aussi des moments de joie. Mais en général, le chant exprime plutôt notre reconnaissance, notre joie, notre désir de louer Dieu. Jacques nous dit « L'un de vous souffre-t-il? Qu'il prie. Est-il joyeux? Qu'il chante. » Des cantiques. Alors comment devons-nous chanter? Il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui parlent du chant. J'aimerais regarder pour commencer Éphésiens 5, versets 15 à 21. Qui est un des passages fondamentaux du chant. Éphésiens 5, versets 15 à 21. « Veillons donc avec soin sur notre conduite, non comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Paul s'adresse à l'église à Éphèse pour souligner l'importance d'un culte qui vient du cœur, de l'esprit et de notre intelligence. Ce qui est un peu bizarre dans ce passage, c'est qu'il mentionne l'ivresse. Et on peut se dire, quel est le rapport entre l'ivresse et le chant ? À l'époque, à Éphèse, il y avait un culte mystérieux à un dieu qui s'appelait Dionysos, qui était le dieu du vin. Les adorateurs de Dionysos, ils s'enivraient et ils pensaient être ainsi habités par leur dieu. Et Paul dit, ne soyez pas sans intelligence. Le chant est quelque chose d'intelligent. Cela implique le fait d'édifier les autres et de les enseigner. Il faut que cela vienne de notre raison et que cela soit compréhensible pour les autres, pour tout le monde. Regardons un autre passage où Paul traite des abus du parler en langue à Corinthe, mais qui parle aussi du fait que ça doit être compréhensible. 1 Corinthiens 14, versets 12 à 16. De même, vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à les avoir en abondance. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc ? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis ? Il faut chanter et prier par l'esprit avec notre intelligence. Il faut le faire pour que les autres puissent comprendre et que les autres puissent pouvoir dire « Amen » à ce qui était chanté ou prié. En faisant cette étude, ça m'a fait poser une petite interrogation qui est de dire si, disons, plus de la moitié de l'assemblée ne comprend pas l'anglais et que nous avons une chorale qui chante en anglais, pourquoi est-ce qu'ils devraient le faire si ce n'est pas intelligible pour la plupart des personnes qui entendent ? Pourquoi le faire si on ne peut pas comprendre ce qui se dit ? Si la plupart des membres ne peuvent pas dire « Amen » à ce qui est chanté parce qu'ils ne comprennent pas ? Dans ce cas-là, je crois qu'il faut se retenir d'avoir quelque chose dans une langue étrangère où personne ne peut comprendre, où la plupart des personnes ne peuvent pas comprendre. Notre culte doit être basé sur la parole de Dieu et non la tradition des hommes. Un culte basé sur quelque chose que les hommes ont établi plutôt que Dieu est un culte qui est en vain. C'est un culte qui n'est pas agréable à Dieu. Jésus dit aux pharisiens, « Hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est en vain qu'il me rende un culte en enseignant des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. » Et Jésus dit aussi à la Samaritaine, « Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » Lorsque nous chantons, cela doit être selon l'enseignement de la parole, c'est-à-dire il faut que ce soit intelligible, que cela provienne du cœur, que cela soit en esprit et en vérité. Nous ne pouvons pas chanter d'une manière rituelle, d'une manière de tradition, ni chanter par nonchalance, c'est-à-dire sans faire trop attention à ce qu'on chante. Dans le Nouveau Testament, il y a 13 textes qui parlent du chant. Il y a 4 textes qui parlent du chant qui est dans l'Ancien Testament. Il y a trois textes qui mentionnent tout simplement le chant sans y apporter d'autres renseignements. Il y a trois textes dans l'Apocalypse qui parlent du chant, mais d'une manière symbolique, avec un langage apocalyptique. Et il y a deux passages fondamentaux sur le chant, un qu'on a lu en Éphésiens 5 et un autre dans Colossiens chapitre 3. Dans Éphésiens 5, nous trouvons les trois mots qui sont employés en grec pour le chant dans le Nouveau Testament. Ado, psalo et hymnéo. À la racine, ça donne adoration, psaume et cantique, ou hymne. Dans Éphésiens 5, nous avons la traduction cantique, psaume et hymne. Mais en regardant bien l'usage de ces trois mots, dans le Nouveau Testament et aussi à l'époque du Nouveau Testament, on peut voir que ces trois mots étaient interchangeables. C'était des synonymes. Ces trois mots veulent tous dire chanter avec la voix. Chanter avec la voix, donc sans accompagnement d'instrument de musique. À l'époque de Jésus, il y avait encore le chant, chanté par des professionnels, avec des instruments de musique, dans les rituels du temple. Ces chants accompagnaient les sacrifices dans le temple. Tous les éléments de ce culte dans le temple visaient à frapper les sens des participants. Il y avait une odeur forte d'encens dans le temple. Il y avait l'odeur de la viande brûlée, des sacrifices. Il y avait des voix qui venaient de partout, avec des chœurs qui chantaient. Il y avait le son des harpes, des trompettes, des cymbales, qui faisaient tout un tintamarre vraiment fort à réveiller un mort. C'était une expérience impressionnante pour les personnes qui venaient dans le temple. Il faut dire aussi que c'était uniquement dans le parvis du temple, donc pas dans le saint ou le saint des saints, et que c'était uniquement par les responsables du temple. Ce n'était pas le peuple qui participait dans le chant ou dans les instruments de musique. Il faut noter que ce culte n'avait rien à voir avec le culte chrétien aujourd'hui. Par contre, le culte des premiers chrétiens se rapprochait beaucoup du culte qu'il y avait dans les synagogues à l'époque. Dans les synagogues, il y avait la lecture des écrits bibliques, il y avait des prières et il y avait le chant des psaumes. C'est plus ou moins les trois activités qu'il y avait dans la synagogue. Et les premiers chrétiens avaient aussi ces trois activités. Il n'y avait pas d'instrument de musique dans le culte de synagogue. Les cultes païens à l'époque avaient le même tintamarre, on peut dire, la même expérience des sens que les cultes des sacrifices dans le temple. Ce qui rendait leur culte aux dieux des religions païennes devait perdre toute maîtrise d'eux-mêmes. Ils devaient perdre toute maîtrise au niveau de l'émotion, de l'extase, et ils avaient des comportements aberrants qui devaient leur emporter. C'était tout le contraire de ce qu'il y avait dans le culte chrétien. Les chrétiens n'adorent pas Dieu dans le but de ressentir des sensations. Ils sont motivés par le désir de louer Dieu et d'édifier leurs frères. Dans le culte chrétien, la louange à Dieu et l'édification d'autrui expriment la pensée et les convictions de notre cœur. Les mots chantés ou priés sont compréhensibles et ils sont raisonnés. C'est l'intelligence de l'homme qui prime et pas une expérience émotionnelle. Dans le culte du premier siècle, on ne chantait pas seulement les psaumes, on chantait tout ce qui était en accord avec la parole de Dieu et qui édifiait les autres par ce qui était chanté. Et on chantait aussi de plusieurs manières. Il y a plusieurs écrits qui montrent un peu les différentes formes de chant qu'il y avait dans le culte à l'époque. D'abord, il y avait parfois des solos. Quelqu'un, par exemple, avait un nouveau chant qu'il voulait chanter devant toute l'assemblée, que l'assemblée puisse l'apprendre, et la personne chantait solo devant les autres. Cela m'a fait penser à Paul Donovan, quand il nous a appris ce chant, je crois que ça s'appelle « La présence de Dieu ». Au début, il a dû chanter solo parce que personne ne connaissait. Mais c'est quelque chose qui se faisait à l'époque, dans l'Église. Il y avait aussi des chants par réponse. C'est-à-dire, quelqu'un chantait une phrase, et ensuite, toute l'assemblée répétait la même phrase après lui. Et ensuite, il rechantait la prochaine phrase, et ensuite, toute l'assemblée répétait la prochaine phrase. C'était souvent des cantiques des psaumes, des passages des psaumes. Il y avait aussi le chant en alternance. Quelqu'un chantait une strophe, toute la strophe, et ensuite toute l'assemblée chantait uniquement le refrain, ensemble. Il y avait un exemple pour cela qui est le psaume 107, où il y a plusieurs strophes et il y a toujours un refrain qui revient tout le temps. Et toute l'assemblée chantait le refrain. Il y avait aussi le chant antiphoné, bon, un terme un peu compliqué. C'est que l'assemblée était divisée en deux groupes et chaque groupe chantait en alternance à son tour. Une partie du chant et ensuite l'autre partie, et ensuite ça se suivait en alternance. Finalement, il y avait aussi le chant à l'unisson, qui est une manière d'exprimer l'unité entre les chrétiens. Tout le monde chantait la mélodie ensemble, de la même manière. Alors j'aimerais maintenant que nous mettions en pratique deux formes de ces chants que nous n'avons pas l'habitude de chanter dans notre assemblée, mais je pense que c'est bien d'avoir cette expérience, de chanter des chants avec deux formes qui ne sont pas habituelles. Et j'aimerais chanter le chant numéro 15 ensemble. Et ensuite, on chantera le numéro 16. Si vous pouvez prendre votre livre de chant, le chant numéro 15 et ensuite le 16. Alors pour le chant numéro 15, j'aimerais qu'on essaye de chanter en réponse. C'est-à-dire, je vais chanter une phrase et ensuite vous allez chanter la même phrase. Ensuite, je passerai à la phrase suivante et ensuite vous allez chanter la phrase suivante. Et on va. Pourquoi avoir des instruments de musique dans le culte? Puisque cela ne permet ni d'accomplir, ni aider à accomplir chacun de ses buts dans l'adoration. Cela n'apporte rien à l'adoration d'avoir des instruments de musique. Dieu ne se soucie pas des qualités musicales des chants, heureusement, parfois, de leur beauté ou de leur harmonie. Ce qu'il recherche, c'est l'adoration d'un cœur humble. Le meilleur orchestre au monde ne peut ajouter à ce que dit Hébreux chapitre 13, verset 15, « Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confessent son nom. » Et si vous chantez très mal, eh bien ce n'est pas une raison pour ne pas chanter. Peut-être qu'il ne faut pas chanter trop fort, mais il faut chanter tout de même. C'est important parce que le chant de louange est un lien de l'unité, surtout lorsque toute l'assemblée se joint ensemble dans un chant. Cela démontre notre unité ensemble, le fait de tous chanter ensemble en même temps, tous ensemble. Pour conclure, voici ce que j'aimerais que vous reteniez de ce message sur le chant ou la louange. La source de la louange, c'est le cœur. L'instrument ou le moyen de la louange, c'est le chant. Le but de la louange, c'est l'édification, c'est de rendre gloire à Dieu et c'est d'exprimer nos émotions. Le contenu de la louange, c'est des psaumes, c'est des chants, des cantiques, des chants inspirés. Les éléments de la louange, c'est qu'elle est autorisée par Dieu, c'est qu'elle est en esprit et en vérité, c'est qu'elle est intelligible ou compréhensible, et c'est qu'elle provient du cœur. Pour terminer, j'aimerais reprendre le premier passage que j'ai lu, qui est un passage en Hébreux, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, ayons de la reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. J'espère que notre culte à Dieu est un culte qui lui est agréable. Une petite page de pub. Si vous voulez savoir plus sur le chant, il y a ce livre, cette brochure qui est disponible, qui parle en détail, c'est assez complet sur le chant, et c'est aussi quelque chose qui est assez lisible, c'est assez facile à lire, c'est pas trop compliqué. Et ça parle beaucoup du chant, comment louer Dieu. Voilà.
Voici arrivé à la fin de ce culte, qui, je l'espère, on a été concentré à ce qu'on a dit et ce qu'on a chanté. Je vais juste lire, je ne vais pas faire long, hein. Je vais juste lire deux versets aujourd'hui, avant de passer à la prière finale. Ce sont que deux versets, mais ils veulent dire beaucoup. Ils se situent en Hébreux chapitre 13. Ce sont les versets 20 et 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende apte à tout ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il fasse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ce sont des versets qui sont forts. Et donc, parmi les sujets de prière, la prière que je vais diriger maintenant, il y aura pour qu'on fasse sa volonté et qu'on ne tombe pas dans le péché. Prions. Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour la paix que tu nous donnes, quand nous savons pardonner pour nos péchés grâce au sang de Jésus. Nous prions, Père, pour te remercier car tu nous aides à lutter quand nous avons enfin un cœur sincère envers toi. Et nous te louons aussi pour la protection que tu nous offres à chaque instant de notre vie qui est si fragile. Nous prions, Père Tout-Puissant, pour qu'on ait plus confiance en toi, car toute chose que tu fais concourt à notre bien, même si on ne s'en rend pas compte. Nous prions donc pour que tu nous ouvres les yeux, et pour que nous ayons confiance en toi pour régler nos problèmes à chacun de nous, que ce soit dans la foi, dans la santé, dans la solitude ou dans d'autres choses. Nous prions, Père, pour que tu nous gardes, pour que nous puissions faire le bien, que nous puissions faire ta volonté. Que ta volonté soit faite, Père, oui, mais que nous ne nous enorgueillons jamais et que nous persévérions toujours sans nous glorifier vainement. C'est dans le nom de Jésus, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, grâce à qui tu nous as donné un sens à notre vie, que nous te faisons cette prière. Amen.
Amen.
Bon dimanche.